Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Massirica.
Au sommaire de cette édition, en Ituri, une double attaque. Des hommes armés non identifiés a coûté la vie à 48 personnes cette nuit à Boga et à Tchabi dans les territoires du Rumu, selon la société civile locale. Parmi les victimes, il y a également deux militaires des FARDC. 10 jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, l'activité reste soutenue sur le volcan et dans la zone de Goma. Les secousses se sont toujours ressenties sur place selon le rapport qui a été fait ce lundi matin par la cellule provinciale de la crise. L'autre invité, c'est le professeur Ali Njukendi, neuropsychiatre spécialisé en matière d'enfants et des adolescents. Il parle des conséquences psychologiques de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Madame, messieurs, bonjour. Ouvrons par cette triste nouvelle du décès la nuit dernière à Kinshasa de Kitenge Yezu, le haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État congolais, selon la présidence de la République. Âgé de 76 ans, Kitenge Yezu a également travaillé à l'époque avec feu le président Mobutu Sese Seko. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. L'actualité, c'est également la poursuite aujourd'hui, lundi, du procès anticorruption devant la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Cette audience intervient après plusieurs mois de suspension suite au recours de la défense de Vital Kamerhe à la cour de cassation qui espérait obtenir une suite favorable, mais toujours déboutée. La cour d'appel va rappeler aujourd'hui les procès-verbaux des audiences précédentes et engager le débat sur les maisons préfabriquées. Le leader de l'UNC, se trouvant sous une observation médicale, pourrait se faire représenter à l'audience par ses avocats. En détention à la prison de Makala, ici à Kinshasa, Vital Kamerhe et ses co-détenus Djamal et Jeannot Mouima avaient été condamnés le 20 juin dernier au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement des fonds du programme dit de 100 jours du président Félix Tshisekedi. 48 personnes ont été tuées, plusieurs blessées et d'autres enlevés dans une double attaque la nuit dernière. Des hommes armés non identifiés à Boga et à Tchabi, à environ 100 km au sud de Bounia en Ituri, dans le territoire du Rumu. Selon la société civile locale, parmi les victimes, il y a également deux militaires des FARDC et des déplacés du site de Ruvinga qui a été investi par ces inciviques. La société civile déplore également l'incendie des maisons et des véhicules et le déplacement massif de la population. À Bounia, Isaac Remoyope.
C'est vers 23h que les habitants de Boga et Tchabi ont été réveillés par des tirs nourris d'armes. À Boga, ces inciviques ont envahi les sites des déplacés de Ruvinga qui hébergent plus de 200 ménages qui ont fui les exactions des rebelles ADF à Tchabi. Selon la cité civile locale, ils ont ouvert le feu sur les personnes déplacées. Bilan provisoire 28 morts, 6 véhicules et 3 maisons incendiées. Parmi les victimes, il y a les présidents des jeunes de Boga dont les membres des familles ont été pris en otage par ces malfrats. À Tchabi, un autre groupe de ces hommes armés a fait incursion à Banzili, dans la chefferie de Banyari Tchabi, toujours aussi d'Irumu. La société civile locale rapporte que 20 personnes ont été abattues, dont les corps gisent encore au sol. Une dizaine de personnes ont été également amenées dans la brousse. Des sources concordantes rapportent que plus de 45 personnes ont été également blessées dans cette double attaque qui a entraîné les déplacements de la population locale. Contactée, l'armée a promis de se prononcer dans les prochaines heures. Signalons que selon plusieurs sources, ce bilan est encore provisoire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ces temps à Beni, les rebelles ougandais de l'ADF ont multiplié leurs attaques depuis quelques jours contre les civils dans le secteur de Rwenzori. Le bilan qui a été dressé par la société civile fait état d'une cinquantaine de civils tués et plusieurs maisons incendiées en une semaine. Le commandant des opérations Sokola 1 rassure les habitants que des dispositions sont prises pour les protéger. Le point de la situation avec vous, Martial Papi Mukeba.
Ce sont les villages de Kissima, Butotolia, Maboulé,
Mihende, Kinyati, Libokora et Kibanda dans le secteur de Rwenzori qui ont été attaqués par les ADF ces derniers jours. Les sources de la société civile parlent d'au moins 50 civils tués à l'intervalle d'une semaine. Le général Peter Chirimwami, commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, qui est arrivé dimanche dans la région Rassir.
Nous avions essayé de réarticuler nos hommes. Il y a des opérations en cours. Je ne sais pas tout révéler au micro, mais je sais que les dispositions sont prises pour arrêter cette recrudescence de massacres.
Quant aux allégations accusant certains militaires FARDC d'être impliqués dans ces tueries dans le secteur de Rwenzori, le général Peter Chirimwami répond.
Ça, c'est l'intox. Il n'y a aucune autorité militaire, aucun président, aucun chef d'état-major général qui peut armer ses hommes contre sa propre population.
Selon des sources sécuritaires, les FARDC renforcent leur position dans le secteur de Rwenzori et exerceraient leurs opérations dans les alentours du parc national de Virunga. Pour sa part, la MONUSCO, à travers les chefs des bureaux intérimaires, souligne que des dispositions sont prises avec l'arrivée des forces d'intervention rapide pour appuyer les FARDC et faire face à la situation. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
On reste à Beni, en plus bref, où les FARDC ont récupéré 5 véhicules de ravitaillement des rebelles ougandais de l'ADF et 70 de leurs collaborateurs depuis l'instauration de l'état de siège au Nord Kivu. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, il s'agit du démantèlement d'un réseau des collaborateurs des rebelles ougandais de l'ADF, parmi lesquels plusieurs ont été tués lors des affrontements. Retour au calme hier dimanche à Mouramvia, dans les hauts plateaux du territoire d'Ouvira au Sud Kivu, où des violents combats ont eu lieu le week-end dernier et faisant 8 morts, dont 3 miliciens et 5 combattants Goumino, plusieurs maisons incendiées. Ces combats opposent des miliciens Goumino, Tugwaneo et alliés à la coalition des Maïmaï dans le groupement des Bidjombo. Le président du comité de suivi de l'accord de cessez-le-feu signé récemment par les groupes armés locaux plaide pour l'implication du gouvernement provincial afin de faciliter le retour des déplacés qui ont fui les affrontements. À Ouvira, Fiston Goma Mayabala.
D'après les rapports circonstanciels du comité de suivi des accords de cessez-le-feu, 9 villages répartis entre Mouramvia et Gongwa ont été incendiés. Les populations civiles avaient quitté ces villages avant l'attaque. D'autres sous-villages occupés par les Ngoumino sont tombés sous les contrôles des miliciens Maïmaï, signale des sources locales. Ces populations civiles se sont dirigées vers la forêt de Kinyoni, un courant Kunzi et manque de tout. Le président du comité de suivi signale que les miliciens Maïmaï avaient initié cette attaque tôt samedi matin sur Mouramvia, alors qu'une autre partie des miliciens Maïmaï en provenance de Kipou pour attaquer à la même heure le village de Mugogo. Jusque samedi soir, des tirs à l'arme lourde et à la mitraillette entendus dans ces villages avaient paniqué la population locale qui a fait mouvement vers Mugete, un autre village voisin. Les Maïmaï disent avoir riposté à une attaque d'Ngoumino à Masango, fief du groupe Bilosebi Chambouke. Les autres groupes dont Yakutumba sont entrés dans la danse, poursuivant les Ngoumino jusqu'à Mouramvia. L'Ngoumino Tugwaneo accuse le Maïmaï de violer les accords de Mouresa et du centre Amania Bukavu. Du côté de l'armée, certaines positions des troupes loyalistes ont été attaquées par les assaillants. Les FARDC ont fait un repli stratégique pendant ces attaques pour éviter les effets collatéraux sur les civils. D'Ouvira, Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Revenons un instant au Nord Kivu, où 10 jours après l'éruption, l'activité reste soutenue sur le volcan Nyiragongo et dans la zone de Goma. Les secousses, bien que moins espacées qu'avant, elles sont toujours ressenties. C'est ce qu'indique le rapport qui a été fait ce lundi matin par la cellule provinciale de crise. Cette cellule appelle la population à la prudence. À Goma, Bernard Denyangui.
Pendant ce week-end, les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, ont poursuivi leur mécanisme de surveillance de l'activité sur le volcan Nyiragongo, notamment en utilisant des survols par hélico sur les flancs et autour du cratère principal. Dans le rapport quotidien rendu devant la presse, ce lundi par son porte-parole, la cellule provinciale de crise appelle à une vigilance. La situation étant encore au rouge. Major Njiki Kaiko.
Les données scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma de ce lundi 31 mai font état des tremblements de terre qui continuent, bien qu'ils ne soient pas ressentis par la population. À cet effet, nous recommandons à la population de rester vigilante, à l'écoute des informations et d'observer strictement les mesures arrêtées par les autorités provinciales. Nous demeurons toujours dans la phase rouge.
Pour rappel, par mesure de précaution sur les risques d'une nouvelle éruption du Nyiragongo, le gouverneur du Nord Kivu avait donné l'ordre, dans la nuit du 26 au 27 mai dernier, à une partie de la population de Goma d'évacuer. Cette mesure reste en vigueur jusqu'aujourd'hui, même si on constate de plus en plus un retour spontané de plusieurs déplacés à leur domicile. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis, la ville de Bukavu a accueilli plus de 10 000 déplacés de Goma depuis la semaine dernière. Parmi eux, environ 300 déplacés sont installés dans les sites aménagés par le gouvernement provincial. D'autres sont dans des familles d'accueil, d'autres encore ont rejoint leurs familles respectives. Question. Quelle est la situation de ces déplacés de Goma? Tentative de réponse avec vous, Emmanuel Elamejou Kabedi, dans ce reportage.
Le gouvernement provincial du Sud Kivu s'est mobilisé pour accueillir et orienter les déplacés de Goma dans les sites aménagés pour la circonstance. À ce jour, le site de Ndendere dans la commune du Banda compte au moins 300 déplacés jusque dimanche 30 mai 2021. Le conseil provincial de la jeunesse accueille les déplacés depuis leur arrivée jusque sur le site. Joëlla Sambo, présidente.
On a déployé des volontaires sur tout le port. Les déplacés qui sont là, ils sont venus sans, par exemple, les habits. Il y en a, par exemple, le rapport à l'alimentation. C'était prévu deux fois. Il y a des aires pour cuisiner la nourriture. Donc, il y a aussi les femmes enceintes, il y a les enfants qui doivent être encadrés avec des petits jets. Il y a la psychologie qu'on doit apporter.
Ce même dimanche, d'autres déplacés continuent de rejoindre ces sites. Cette maman s'est dit heureuse des conditions trouvées sur place.
J'ai fui Goma pour les volcans. Arrivé ici, depuis le port, j'ai vu les gens de la Croix-Rouge et ils nous ont amenés ici. En ce moment, je suis même en train de manger et je vois qu'ils sont bien organisés.
On est venu ici parce qu'il y avait les tremblements chez nous. Alors on nous a dit de venir à Bukavu.
Vous dormez bien?
Oui.
Vous mangez bien?
Oui.
Emmanuel Elamejou Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Et puis, près de 416 000 déplacés ont été enregistrés après l'éruption volcanique de Nyiragongo, dont plus de 56 000 sur l'axe Sake-Bweremana. C'est ce qu'indique Ocha dans un communiqué publié hier dimanche. Selon la source, on observe quelques mouvements de retour de ces déplacés vers Goma. C'est ce que nous raconte Honoré Misengakalala.
Plusieurs cultes religieux ont été organisés hier dimanche dans quelques quartiers de la ville, y compris dans ceux situés dans la zone rouge, constate le bureau de coordination des actions humanitaires OCHA. En dehors des églises, d'autres activités ont également repris, bien que timidement. Il s'agit notamment des activités commerciales au centre-ville de Goma et à Birere. La plus grande difficulté à laquelle sont confrontés les déplacés dans certaines zones d'accueil est le logement. Le cas des 600 d'entre eux qui occupent les locaux d'une école à Minova et qui étaient obligés de vider le lieu pour permettre le déroulement des activités scolaires dès ce lundi. Ocha rappelle par ailleurs que le gouverneur militaire du Nord Kivu a effectué le 29 mai dernier une visite aux personnes déplacées de la cité de Sake. Il leur a demandé de la patience et de s'en remettre aux autorités qui travaillent en étroite collaboration avec les experts de l'Observatoire volcanique de Goma. Toujours selon Ocha, à travers sa matrice de suivi du déplacement, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a estimé le nombre total de déplacés liés à cette catastrophe naturelle à 412 700 personnes réparties dans plus de 10 zones de l'intérieur du Nord Kivu et de Bukavu au Sud Kivu.
Bonne nouvelle pour les habitants de Guadolité. Plusieurs tonnes de matériel électrique sont arrivées hier dimanche après-midi par avion en vue de réhabiliter la centrale de Mobayimbongo et surtout les transformateurs qui avaient été brûlés au poste de Bambou. Mais les abonnés doivent encore attendre parce que les travaux sont prévus pour 8 jours. Des précisions en Bandaka avec Paul-Richard Malengela, notre correspondant régional.
Le cargo affrété par la SNEL a débarqué dimanche dernier à Guadolité plusieurs tonnes de matériel. Il s'agit notamment des pièces pour la centrale hydroélectrique de Mobayimbongo, le transport de l'électricité et pour la distribution auprès des abonnés. L'ingénieur chef de la délégation technique de la SNEL, venu de Kinshasa, a confirmé l'information. Il parle alors du début des travaux dès ce lundi. Vital Gbanga.
Le matériel d'intervention au poste des bambous, c'est les bougies. Et nous sommes en train de travailler là-dessus aujourd'hui. Si tout est concluant pour nous au plus tard, mardi 8, nous devons reprendre la ville de Bado en alimentation électrique.
Un motif de soulagement pour tous les Litéens ou habitants de la ville qui n'en peuvent plus à cause de cette panne d'électricité. Taylor Taïma, le président du cadre de concertation de la société civile de Nord-Oubangui, revient sur quelques difficultés qu'endure cette population.
Il y a eu des conséquences énormes, il y a des moulins, il y a beaucoup de choses. Les gens sont toutes les moins chères maintenant. Aussi, les enfants n'ont pas de quoi apprendre. Il y en a qui ont recouru à ce qu'on a appelé les tempêtes de Makanza. Il y a eu aussi insécurité, comme il y a l'obscurité, ça a été favorable pour les bandits. Et la communication vraiment d'Internet et tout ça, nous devons être ralenti.
Ce matériel était donc attendu surtout en vue de la réhabilitation du transformateur dont la panne a plongé Badolité dans le noir depuis plus d'un mois. Bandaka, Porsche Malingue, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Confrontée ces jours-ci à une troisième vague de contamination au coronavirus, l'Afrique du Sud met en place des mesures de restrictions sanitaires. Des nouvelles restrictions sanitaires sont nécessaires pour que les hôpitaux du pays ne soient pas submergés et que des vies humaines qui pourraient être sauvées ne soient pas perdues, a déclaré ce matin le président sud-africain Cyril Ramaphosa. La tension monte d'un cran entre la République centrafricaine et le Tchad qui accuse les forces armées centrafricaines d'avoir tué 6 de ses soldats ce dimanche après-midi. Selon le ministère tchadien des Affaires étrangères, les forces armées centrafricaines auraient attaqué le poste frontalier de Sourou avant d'enlever et d'exécuter 5 d'entre eux.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Ali Ndjukendi, ce neuropsychiatre est spécialisé en matière d'enfants et des adolescents. Il s'exprime sur les conséquences psychologiques de l'éruption volcanique de Nyiragongo et propose en même temps des pistes et des solutions et s'entretient avec Alain Rung.
Docteur Ali Ndjukendi, bonjour. Après l'éruption volcanique du Nyiragongo, dans quel état psychologique peuvent se trouver les habitants de la ville de Goma?
Bonjour. Il est vrai que suite à ce qui s'est passé à Goma, tout le monde, pas seulement les gens qui vivent à Goma, mais pratiquement toute la République ou toute personne qui serait informée par rapport à ce qui s'est passé, se trouve dans un état de détresse psychologique.
Quelles peuvent être les conséquences sur le plan psychologique et physique lorsqu'on a assisté à une telle catastrophe?
Les conséquences peuvent être physiques par rapport à ceux qui ont été en contact, ceux qui ont causé par exemple des fractures, des plaies, peuvent avoir des répercussions directes sur leur corps. Mais ces personnes-là, il y a au-delà des conséquences physiques, des conséquences sur le plan psychologique. Et les conséquences sur le plan psychologique, qu'on ne concerne pas seulement les gens qui viennent, même ceux qui n'ont pas vécu ça. Et c'est ainsi que même nous qui sommes loin de là, qui sommes déjà informés, et il y a des gens qui sont aussi traumatisés parce que l'un de leurs peut être concerné par ce problème. Les conséquences sont des manifestations qu'on peut voir sur le plan affectif, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, quelqu'un peut avoir des répercussions. Sur le plan de comportement, ça peut changer le comportement de quelqu'un, surtout en ce qui concerne les enfants et les adolescents, parce qu'on ne tient pas souvent compte de ces gens. Un enfant, par exemple, qui avait déjà arrêté de faire pipi au lit suite à un tel traumatisme, peut recommencer à faire pipi au lit qu'on appelle les nuresies. Il y a plusieurs conséquences qu'on peut avoir sur le plan comportemental. Il y a des conséquences sur le plan cognitif, sur le plan des pensées, des idées, des décisions. Et quand cela commence à revenir chaque fois, à telle enseigne que la personne ne saura plus dormir parce que les images qu'il aura vécues continuent à défiler dans la tête, conséquence, il ne saura plus dormir. Certaines personnes ne seront même plus vaquées à leurs occupations, même après traumatisme.
Quelles sont les solutions que l'on peut proposer pour soulager tant soit peu les compatriotes de Goma sur le plan psychologique notamment?
Oui, effectivement, la solution est là. La proposition du gouvernement, c'est déjà une solution, c'est-à-dire le plan des contingences. Dans ce plan, il y a un côté social, c'est-à-dire il faut déplacer les gens qui courent les risques encore de certaines complications liées à l'éruption volcanique. C'est ce qu'on a fait, déplacer ces gens. Et quand on déplace ces gens, le plan des contingences, hormis les aspects sur le plan social, il y a cet accompagnement sur le plan psychologique. Parce que vous vous imaginez, il faut parfois se mettre à la place de ces gens-là. Imaginez-vous quand vous voulez effectuer même un voyage, on vous dit, vous ne pouvez avoir que 10 kilos. Vous posez, qu'est-ce que vous devez amener avec vous? Ces gens-là doivent quitter, abandonner leur maison. Qu'est-ce qu'ils vont amener? Leur diplôme, les enfants, l'argent, le lit, ainsi de suite. C'est déjà un problème, une répercussion au-delà de ce qu'ils sont en train de vivre. Le fait qu'ils soient déplacés, c'est déjà un problème, a des répercussions sur le plan psychologique. Et c'est pourquoi on parle de plan de contingence, hormis les aspects sociaux. Même si on les met, par exemple, dans un campement comme ça, dans un cas où il y a beaucoup de gens, quelqu'un qui n'a jamais vécu dans un milieu de ce genre, il aura des difficultés pour pouvoir s'adapter et l'accompagnement psychologique doit suivre. Donc, dans un premier temps, l'accompagnement psychologique et des mises, c'est ce qui va permettre à tous ces gens-là de pouvoir rebondir. Et lorsque les mécanismes de contingence ne sont pas mis en place et intégrés devant la situation, ça va encore aggraver la situation dans les chefs de ces gens-là. Dans un premier temps, on n'a pas besoin des mécanismes, on peut dire des soutiens, des messages, mais c'est l'action, il faut passer à l'action parce que ces gens-là sont traumatisés et ils en souffrent.
Enfin, plusieurs experts disent que la population de Goma doit apprendre à vivre avec le volcan. Quel type d'accompagnement l'État et d'autres organismes peuvent apporter dans ce sens?
Le message actuel, ce qu'il faut reconnaître, c'est de dire que ça survient dans un contexte très particulier parce que tous ces gens-là présentent ce qu'on appelle un état d'extrême post-traumatique complexe parce qu'il y a des gens qui ont vécu d'autres traumatismes. Et ça survient dans un moment où vous avez encore la pandémie à COVID-19. Au-delà de cela, vous avez encore l'état d'urgence. Et les gens sont dans une situation où il faut intégrer tous ces différents aspects pour leur accompagnement psychologique. Mais quand il faille vivre avec le volcan, ils ont toujours vécu avec. Maintenant, il faut faire comme on a fait avec la pandémie à COVID-19, c'est-à-dire il faut des mesures barrières. Les mesures barrières sont résumées dans le sens de pouvoir prévenir. Imaginez-vous que depuis tout le temps, on ne pouvait plus suivre l'évolution du volcan parce qu'il n'y avait plus de matériel. Donc, si on peut respecter toutes ces mesures, on saura que non, d'ici là, il y a un danger imminent et on pourra évacuer la population dans la quiétude.
Docteur Aline Djoukendi, merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le professeur Ali Njoukendi. Ce neuropsychiatre était interrogé par Alain Irung. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Tchikota et Alain Irung Mouchiche qui m'ont accompagné. Poursuivez ce journal sur nos différentes plateformes numériques de Radio Okapi. Dans quelques instants, la page des sports.